بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Chers frères en islam, nous remercions Allah Rabbul Izza qui nous accepte pour consacrer un peu de temps pour apprendre le Coran. Apprendre le Coran, c'est apprendre à lire, c'est apprendre à le réciter, c'est le pratiquer dans la salah par la lecture, la tilawa. Apprendre le Coran, c'est également et surtout apprendre son sens. Essayer de voir qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izza nous a révélé à travers ce wahi, quel est le changement qu'Allah attend de nous. Comment, quelle direction doit-on prendre et quelles sont les directives donc qu'on doit trouver dans les versets. Ce qui nous intéresse dans les durus de tafsir, c'est le contenu du Coran. Parce que le contenu des versets, c'est notre mode de vie, c'est notre survie, c'est notre garantie de rester sur le sirat al-mustaqim, le droit chemin, et c'est également notre garantie de rester éloigné du dalal, de la perdition. C'est notre garantie d'être protégé de jahl, de l'ignorance, des bid'ah, des innovations, ou des mouvements, des courants de pensée qui, même s'il y a une apparence de piété ou d'attachement à la religion, mais ils s'éloignent de la volonté d'Allah et de la pratique de Al-Habib alayhi salatu wassalam. Si les mu'mines, si les croyants, ils s'accrochaient au Coran et au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension saine des grands savants de l'islam, des mufassirin, des muhaddithin, des a'imma, des madhahib, la situation des croyants à notre époque, elle serait bien différente. Et ce qui s'est passé à Londres, hier ou avant-hier, premièrement, cette situation, elle n'aurait jamais eu lieu. Parce que l'ensemble des croyants, ils sauraient, là malheureusement ce n'est pas le cas, au conditionnel, ils auraient su quel est le mode de vie, quel est l'enseignement prophétique concernant ce genre de situation. Et tout ce qui découle du Coran dans les relations avec les personnes qui n'ont pas la foi. C'est-à-dire savoir gérer ces situations, ça aussi ça fait partie de l'éducation spirituelle du musulman. Lorsqu'on voit des personnes, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, quel que soit l'endroit, il n'y a pas besoin de vous faire un tableau des événements de ces 5 dernières années. Quand on voit ce qui se passe, la première chose, la première réaction que nous avons, c'est reparti, oui ou non? Et voilà, c'est reparti par une campagne médiatique, un martèlement autour de l'islam, des accusations et ainsi de suite. Et on est immédiatement attristé. On se sent triste pour ce qui se passe, pour les personnes pour les victimes, parce que ce sont des innocents. On viendra sur la notion d'innocent. Est-ce qu'on tue un innocent? Ça, c'est, il n'y a pas situation plus chaotique et il n'y a pas plus grand volume, plus grande oppression et plus grande injustice que de faire couler le sang d'un innocent. Donc ça on verra dans un instant, mais la première réaction qui nous revient c'est de la pitié également pour les musulmans qui habitent dans ces régions. On se dit que Allah musta'an, qu'est-ce qu'ils vont devoir entendre, qu'est-ce qu'ils vont subir, qu'est-ce qu'ils vont avoir à affronter en termes d'échange de regards, les gens qui vont les prendre de haut, les gens qui vont développer un racisme qui sera presque légitime, qui deviendra la pensée acceptée, courante, d'accord? Et on se dit que les personnes de cette localité, ils vont connaître des jours extrêmement difficiles. Et on se dit qu'il est tellement dommage, il est tellement dommage que ce qui revient au centre de tous ces attentats et de ces exactions, Allah musta'an, c'est la religion. Et on se dit que, et là il y a la première chose qui m'est venue à l'esprit, hein, la première pensée que j'ai eue quand on a entendu les événements, je me suis rappelé du prophète, du texte prophétique dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit un hadith que tout le monde connaît, qui peut paraître hors sujet, mais suivez l'analogie. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui invente une parole et me l'approprie, que cette personne prépare sa place dans le feu de l'enfer. Il n'y a que celui qui invente un hadith, ou celui qui fait une action et dit que le prophète m'a demandé de faire ça, ou le prophète a dit telle chose. Il y a quelqu'un qui invente quelque chose et qui l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas lui qui l'a dit, ce n'est pas lui qui l'a fait, il le fait volontairement. La mise en garde est extrêmement sévère. Que la personne prépare dès maintenant, c'est-à-dire al-an, dès maintenant que la personne prépare sa future place dans l'enfer, dans le jahannam, qu'Allah nous protège. C'est une mise en garde qui est très rare. Cette intensité de mise en garde venant du prophète, c'est quelque chose de très rare pour nous faire comprendre que dans le dîn, on doit faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on véhicule comme message et ne jamais attribuer au prophète ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, une personne qui va s'en prendre à des innocents, qui va le faire pour Allah, comme il dit, ou pour les musulmans, pour l'islam. Alors, il a accompli une action et il attribue cette action à Allah, oui ou non? Quand il dit, ou alors comme ce jeune qui dit je veux mourir pour Allah, l'autre là, à Paris, celui qui était ivre, et il y avait un taux de... Il avait quoi dans le sang? Cannabis ou cocaïne, un truc comme ça, il était sous l'effet, comme on dit gentiment ici, mais c'était un gros l'effet. Mais ces personnes qui disent je veux mourir pour Allah, ils vont attribuer ce crime ou cette tentative de meurtre ou ces exactions, ils l'attribuent à Allah Azza wa Jal. C'est comme si c'est Allah qui leur avait demandé et c'est le message qu'il véhicule aux gens. Donc là, on est encore plus grave là. Là, c'est des personnes qui mentent sur la volonté d'Allah. C'est des personnes qui mentent en disant que c'est Allah qui me demande d'assassiner un policier ou de prendre... Moi, je suis embêté, je roule en 4x4. Maintenant, imaginez. D'accord? Et tous les regards portent sur les gens qui conduisent un SUV. Donc, on revient. Ou la personne qui prend son véhicule et qui fonce sur des innocents. Et selon le message qu'il veut véhiculer au monde, parce qu'il sait qu'il va être abattu, ça c'est la dernière action qu'il va faire, d'accord? Il veut montrer aux gens, au public, qu'il le fait pour Allah. Et par rapport à son identité de musulman, ben, il est en train de mentir sur la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il est en train d'attribuer à Allah Azza wa Jal des choses qu'Allah déteste, qu'Allah désapprouve totalement. Car dans un hadith Qudsi, notre Seigneur nous dit par l'intermédiaire du prophète, au fils de Adam, sachez que j'ai interdit le zulm, l'oppression sur moi-même. Allah ne fait pas zulm. Allah n'opprime pas. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Fala tazalamu. Ne soyez pas injuste envers vous-même, c'est-à-dire les uns les autres. N'agissez pas de façon injuste avec vos prochains. N'accomplissez rien qui pourrait causer du tort à votre prochain. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle également, et là, c'est une mise en garde sévère, que le jour de Qiyamah, la première action qui sera présentée, premier crime on va dire, premier péché, à propos duquel il y aura des questions le jour de Qiyamah, ce sera Ad-Dima. C'est quoi Ad-Dima? Le pluriel de Dam. Ad-Dima, c'est le sang. La première question, les comptes vont s'ouvrir sur les questions en rapport avec le sang, ceux qui ont fait couler le sang des autres. Et le hadith, il est d'une description, elle est tellement précise, c'est comme si qu'on voit la scène, mais on n'arrive pas à figurer la scène parce que ce hadith nous a introduit vers le delà. Et là, il y a une frontière entre ce que nous pouvons comprendre et imaginer et les réalités. Ce que nous devons retenir, c'est le message. Même si on n'arrive pas à concevoir tous les détails du hadith, le message est le plus important. De ce hadith, il est décrit que la personne qui a été tuée injustement se présentera devant Allah Azza wa Jal avec sa tête qu'il tiendra dans sa main et son corps qui saigne. Et il tiendra le meurtrier de sa main. Et il demandera à Allah Azza wa Jal, « Ya Rabb, salhu fima qatalani. » « Ya Allah, oh mon Seigneur, demande-lui pourquoi il m'a tué. » Ça, c'est celui qui a tué une personne. Celui qui a fait couler le sang d'un innocent. Les premiers hisab concernent les injustices et le meurtre. Et c'est cette personne, dites-moi, qui aborde, comme celui qui l'a fait à Nice, ou celui qui le fait à Londres, qui prend son véhicule, qui fonce dans la foule. À Nice, combien d'enfants sont morts? Wallah musta'an. J'avais prévu de faire un séminaire à Nice. Bon, c'est terminé, c'est fermé. Hors de question. J'ai été sollicité à plusieurs reprises. Nice m'a présenté les associations, le cadre et tout. Ça paraissait pas mal. Nice, c'est un peu comme la Réunion, il y a du soleil et tout. Mais hors de question, avec ce genre de bêtises, na'oud billah, ce genre de crime, c'est plus possible. La pratique même de la religion devient difficile. La personne qui veut ouvrir une masjid, qui veut ouvrir une madrasa, qui a besoin d'autorisation, avec un tel climat qui a été créé par les exactions de ces gens, comment voulez-vous que la communauté musulmane dans ces endroits avance? C'est un volume d'un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Donc, cette personne qui a foncé sur la foule à Nice, et cette autre personne qui l'a fait à Londres et qui a tué des innocents, et à Nice des enfants, des femmes, des enfants, majoritairement des enfants qui étaient, on connaît l'histoire, et là des étudiants, des jeunes, qui étaient totalement innocents. Mais le jour de Qiyama, ces personnes qui ont été tuées, je ne sais pas, il y en avait combien, 4 ou 5, ils vont ramener ce meurtre et qu'il s'appelle Mohammed, qu'il s'appelle Abdullah, qu'il s'appelle Abdul Aziz, il sera présenté devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal parce que son nom, ça n'a plus d'importance. C'est le crime, ces créatures d'Allah, même si, et ça c'est, même, c'est irrespectueux de ma part de le dire, même s'ils n'étaient pas mu'mines, ils n'avaient pas la ilaha illallah de leur cœur, mais ce sont des créatures d'Allah. Le risque vient de qui? Allah. Allah nourrit ses créatures depuis leur naissance et jusqu'à leur mort. Ça, c'est créature d'Allah. Et personne n'a le droit de faire du mal, du tort au makhlouqan. C'est pour qu'on comprenne comment est-ce que ce genre d'agissement, c'est vraiment, c'est tout ce que vous voulez, sauf l'islam. Et ça, on doit être convaincu. Et on doit avoir ces arguments également pour défendre la cause. Lorsqu'on entend, parce que même si ça se passe en Angleterre, ça finit par rejaillir sur le monde entier. Avec la mondialisation, sur le lieu de travail, dans les discussions, on entend, et c'est des choses qui nous font mal. Maintenant, sachez que, à chaque fois qu'on entend des paroles blessantes à propos de nos convictions, à propos de notre religion, à propos de nos pratiques, sachez que même si on a mal, même si on se sent mal à l'aise, ce n'est rien par rapport à ce que les sahaba ont enduré à Mecca, fil ahd al-makki, dans la période mikwaze. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enduré, lorsqu'on l'a traité de menteur, on l'a traité de sorcier, on l'a traité de possédé, de fou, de personne qui, il veut s'emparer des reines de Mecca, il veut devenir l'empereur, le roi de la Mecque, il veut avoir le pouvoir, c'est un but politique. Tous ces mensonges que les polythéistes de Quraysh ont dit à propos du prophète alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam a été patient, il a pris ces événements comme étant une épreuve de la part d'Allah, avec sérénité. Et Al-Qalam, la sourate Al-Qalam, le début, c'est un encouragement pour le prophète sallam face à ses accusations. Quand il disait qu'il est fou, il est possédé, Allah Azza wa Jal atteste, le créateur des cieux et de la terre atteste qu'il n'est pas fou. Le créateur des cieux et de la terre atteste que wa innaka la'ala khuluqin, khuluqin azim, que même si eux, ils te considèrent comme un menteur, comme un imposteur, comme un sorcier, Allah Azza wa Jal atteste de le Coran par des versets qui seront lus jusqu'à la fin des temps que ton comportement, c'est le meilleur des comportements. Il n'y a pas une créature qui a un comportement plus noble que le tien. Donc on doit être capable maintenant de se projeter à travers ces textes pour vivre les situations actuelles et tout ce qu'on entend et tout ce qu'on risque de lire sur Internet et dans la presse. Il y a une différence entre ce qu'on appelle at-tadayyun, la piété, la pratique de la religion. Al-ghulou, l'exagération, et al-jahl. Al-jahl, c'est l'ignorance. At-tadayyun, la pratique, et malheureusement, la pratique de la religion, ils ont fait une impasse, et c'est volontaire. la pratique de la religion, entre guillemets la piété, l'assiduité de la pratique, maintenant c'est assimilé au rigorisme religieux. Une personne décide, une personne se reconvertit à l'islam. Du jour au lendemain, il change ses habitudes. Il buvait, il ne boit plus d'alcool. Il consommait telle chose, il ne consomme plus. D'accord ? Il a un autre mode de vie, avec une hygiène de vie, une spiritualité. Automatiquement, ce changement sera perçu comme, c'est quoi le grand mot qui fait frissonner tout le monde ? Commence par un R, la radicalisation. Et c'est ça le danger. C'est qu'une personne qui veut se rapprocher d'Allah maintenant, mais ça ne doit pas nous ralentir. Une personne qui veut se rapprocher d'Allah, une sœur qui, après avoir écouté des paroles bénéfiques, elle a envie de se couvrir correctement. Elle a envie de changer son mode vestimentaire. Le fait qu'elle va se couvrir maintenant les cheveux, ça sera perçu comme de la radicalité. Voyez quel est le niveau de dhulm. Comment est-ce que ces personnes, ils causent du tort à chacun d'entre nous, même celui qui habite dans son quartier, la Bretagne, Chaudron, Moufia, toute personne qui se reconnaît comme musulman et qui affiche sa pratique religieuse sera observée, sera surveillée, parce que un progrès dans la religion, un attachement, un retour vers la spiritualité sera immédiatement perçu comme de la radicalisation. Et cela, ça c'est une conséquence de tout ce qu'ils ont fait. Et si on vient vers, avant de développer ces trois notions, si uniquement une analyse logique, d'accord, si on met de côté les arguments religieux, quand ces personnes ils font ce genre de choses, déjà, c'est quoi leur intention? Ils veulent peut-être venger le sang des innocents au Cham, en Syrie, ou ailleurs, dans d'autres pays musulmans. Mais où est la logique? Où est la logique? Une personne a été tuée à 6000 km. Tu vas tuer un innocent à 8000 km. Ils n'ont aucun rapport. Ça n'a strictement aucun sens. Dans, restez le dernier Ramadan, on avait commenté un verset, subhanallah, et c'est qu'on cherche, qu'on ne trouve plus, un verset dont le sens, c'était après le sulh de Hudaybiyah. Si je ne me trompe pas, l'an 6, le pacte de Hudaybiyah. Le pacte de Hudaybiyah, très simplement, le prophète, alayhi salatu wassalam, voit un rêve qu'il accomplit là, l'Umra. Il dit aux sahaba de l'accompagner, ils se mettent en état de ihram, de sacralisation, ils amènent al-hadi, les moutons pour sacrifier, et ils vont à Makkatul Mukarram. Arrivés à un endroit, ils s'arrêtent et ils envoient un messager rencontrer les Quraysh. On fait les choses correctement. C'est pas qu'ils rentrent de force et tout. Il y a une intelligence, il y a une diplomatie, il y a un savoir-vivre, il y a un comportement à travers chaque décision prophétique. L'émissaire va annoncer aux Mécois, c'était Uthman ibn Affan, si je ne me trompe pas, que les musulmans sont là, ils ne sont pas armés. Ils sont venus pour la Umrah. Ils demandent l'autorisation d'entrer à Makkah. Il était simple pour les Mécois de les laisser entrer, mais il y a de la méchanceté, il y a la jalousie, il y a le hiqd, il y a tout ce qu'il y a, toute la saleté qu'il y a de leur cœur, était toujours présent. Ils refusent et ils demandent plein de choses, et on connaît l'histoire du pacte de Hudaybiyah et que le prophète a tout accepté pour Allah Azza wa Jal. Pour Allah, il a fait, il n'a pas regardé l'intérêt des croyants, il s'en est remis à Allah Azza wa Jal qui a créé cette situation. Ce qu'on retient, c'est qu'au moment où les musulmans s'apprêtaient à retourner à Madina, et c'était difficile, hein, quand le prophète a dit aux sahaba qu'on ne peut pas entrer à Makkah et qu'il a signé le pacte et que maintenant il faut se raser la tête, couper l'animal parce que le niyat avait déjà été fait et retourné, sahaba il ne voulait pas faire. Le prophète consulte son épouse. Qu'est-ce qu'on fait? Et son épouse lui dit que montre l'exemple. Tu te rases la tête toi-même et ils vont te suivre. Oh Nabiullah, et c'est ce que le prophète a fait. Au moment où ils s'apprêtent à retourner à Madina, ils prennent le chemin du retour, le cœur gros, le cœur attristé parce qu'ils étaient à deux pas de Makkah. Ça faisait pour certains 6 ans. Qui n'avaient pas vu la Kaaba. Et c'était difficile pour eux. Ils voient des tribus de polythéistes, d'autres tribus qui arrivent pour aller faire le tawaf autour de la Kaaba. Ils viennent faire, on va dire, entre guillemets, une umrah. Mais l'umrah, leur façon à eux. Comme c'était l'habitude des Arabes de différentes tribus de venir à Makkah. Et ces personnes-là sont passées tout à fait normalement et ils allaient entrer sans problème. Et certains sahaba avaient émis l'idée, ben, on va les empêcher d'entrer. Si nous, on est dans le haqq, haqq, on n'a pas eu accès, ben on va les empêcher eux aussi d'entrer. Pourquoi eux qui sont de le batil, ce sont des adorateurs d'idoles comme les Quraysh, mais pourquoi est-ce qu'eux ils ont le droit de s'approcher de la Kaaba? On va les empêcher. Le prophète alayhi salatu wa salam empêcher les sahaba d'agir de la sorte. Pourquoi? Et Ibn Kathir les cité le verset magnifique: wala yajrimannakum shana'an wa qawmin an saddukum 'an al-masjid al-haram an ta'tadu. C'est dans quel juz, quelle sourate? Hudhayfa l'expert nous dira. Allah Rabbul Izza interdit aux musulmans, le message, de se venger sur des personnes parce que d'autres les ont empêchés d'entrer dans le masjid al-haram. Et ces personnes qui, eux, vont entrer, ils ne vous ont rien fait, eux. Ce n'est pas eux les coupables. Les coupables, c'est les Quraysh qui sont à Makkah, qui ont fermé leurs portes. Eux, ils n'y sont pour rien. Allah a interdit aux musulmans de s'en prendre à des gens qui sont totalement étrangers à cette situation. Et ce que ces personnes recherchent, c'est certainement venger le sang d'innocents, Wallahu a'lam, mais d'innocents dans différents pays, Cham ou quel que soit l'endroit, mais ces Anglais, ces Parisiens, ces Espagnols, ou peu importe ces personnes-là, ils y sont pour rien dedans. Wallahu musta'an. Et ça, c'est Hamadjiya, on appelle ça en arabe. C'est quelque chose de démentiel. C'est, ça n'a aucun sens, ni spirituellement, ni sur le plan humain, ni même question stratégie ou logique humaine. Donc tout est condamnable de ce qui a été fait, et nous devons être capables de faire passer ce message et de montrer vraiment que tout ce qui se fait, Wallah musta'an, ça n'a aucun rapport avec le dîn. C'est à eux de prendre la décision concernant, on va pas entrer dans la politique, ce qu'ils ont laissé, hein, d'accord, former, ainsi de suite, jusqu'à former une entité, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a plus une volonté politique de créer un État que de la spiritualité. Et quand on voit ce jeune qui a essayé de qui a agressé un policier, qui a pris son arme, c'était à Paris, ça non? C'était à Paris, ivre, drogué, et son père dit: mon fils, ne priez jamais, il n'a aucun rapport avec la religion. C'est un homme pieux qui, un islamiste, faut arrêter là, d'accord? Je pense qu'à un moment donné, le peuple, il n'est pas aussi stupide, un peu quand même, un peu. Parce que les médias n'aident pas, et d'autres personnes, des preneurs de décision également, parfois ils véhiculent certains messages. On souffre beaucoup du syndrome Bart Simpson, Homer Simpson, la télé, et tout ce qu'il y a de la télé, on croit, c'est le wahi, c'est la vérité. Donc malheureusement, beaucoup de gens font comme ça, mais ceux qui sont un peu au-dessus du lot, ils réalisent, ils comprennent qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il y a un problème qui vient de certaines personnes. C'est pas en fermant la mosquée qui est là, ou c'est pas en créant, en tapant sur le musulman qui sort de sa mosquée pour aller acheter une demi-baguette le matin après le fajr. Lui n'y est pour rien. Donc c'est des décisions arbitraires, et ça n'apporte strictement rien, si ce n'est diviser les gens. Donc, at-tadayyun, c'est celui qui veut se rapprocher d'Allah en suivant les textes, en suivant le Coran, en suivant la Sunna et les savants. Al-ghulou, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher d'Allah. Il suit les textes, mais il ne suit pas le modèle prophétique. Il ne suit pas le mode de vie des sahaba, ni des grands savants. C'est-à-dire qu'il y a des notions de la religion, la prière, les ablutions, le dhikr, le Coran. Il va mettre ses actions en application, mais il va en faire excessivement. Ou il va compliquer ses actions jusqu'à ce que ça devienne envahissant, et il n'y a plus de pratique religieuse. C'est ce qu'on appelle at-tanattu'. Le prophète dit que ceux qui font preuve de tanattu', ils se perdent eux-mêmes. Qu'Allah nous protège, ils se perdent eux-mêmes. L'intention est bonne, les actions existent, mais ils ne suivent pas le modèle prophétique dans la pratique des actions. Et c'est Sahaba qui a dit au prophète d'Allah: je ne me marierai jamais pour me consacrer pour Allah. L'autre qui dit: je ne dors plus jamais le soir pour me consacrer à Allah. L'autre qui dit: je ne mange plus jamais le matin, c'est-à-dire je fais rosa, je jeûne tous les jours pour Allah. Et le prophète s'est était très très content, très en colère, très en colère. Il a dit que je suis le plus pieux parmi vous. Et je suis marié. Le soir, je dors et je me réveille. Il y a des jours où je jeûne, des jours où je ne jeûne pas. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Ça, c'est exemple de roulou, d'exagération. Donc, il veut suivre les textes, mais il les suit aveuglément selon ce qu'il a envie, selon sa conception de la piété, qui n'est pas celle du Coran et de la Sunna. Ensuite, il y a Al-Jahl. Et dans le jahl, il y a deux niveaux de jahl. Il y a l'ignorance bête, et ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. Ignorance sur ignorance. Ignorance, comment vous dites en maths avec les petits deux qui viennent à côté? Les petits chiffres. Ignorance puissance 5, puissance 10. dire que la personne ne connaît rien, mais il est persuadé que c'est lui le meilleur. Et ça, c'est le pire, parce qu'on ne peut pas le convaincre. Il ne connaît rien, mais il pense qu'il est le meilleur. Jahl murakkab, on dit ça en arabe. Mais la personne pense, la personne a un idéal concernant la religion, un idéal concernant l'identité de l'islam, ce qu'ils vont montrer au monde, la vengeance qu'on peut mener, le combat, na'oudhou billah, qu'on peut mener contre des populations qui tuent nos femmes, nos enfants, à droite, à gauche, en Orient, en Occident, ainsi de suite. Et donc, là, la personne a un idéal et il va aller dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et il fait n'importe quoi, et c'est là que le djahl, l'ignorance intervient, parce que ces personnes vont subir l'endoctrinement de ce qu'on appelle, Kant appelait ça, des directeurs de conscience. Directeur de conscience, c'est quelqu'un qui va prendre la possession de ton cerveau, et il va profiter, un, de ta jeunesse, deux, de ta naïveté, trois, de ta reconversion à l'islam, donc tu ne connais rien sur l'islam, et la personne va t'inculquer des notions, des valeurs qui sont étrangères à l'islam, te faire croire qu'il faut se venger, il faut faire de telles choses, de telle manière, ainsi de suite. Et ce n'est pas pour rien si la plupart des personnes qui ont fait des attentats ces derniers temps, ils ont un background. Ils sont soit, comment on appelle ça, pas aubergiste, je dis plus ça. Ils travaillent dans des bars, il y en a qui vendaient de l'alcool. Alors, quelle piété, ou celui-là drogué, ou il boit de l'alcool, et ainsi de suite, il prie pas. Et si on pose des questions, genre, est-ce que c'est quelqu'un qui fréquentait un lieu de culte? Jamais vu à la mosquée, aucune pratique religieuse. Donc ça c'est le djahl, un idéal, ou une vengeance, ou un endoctrinement, ou un effet, je sais pas quoi, et que la personne va accomplir ce genre d'action. Et des conséquences, Allah Musta'an, comme on a dit, c'est ça se répercute partout. La population locale, mais également dans n'importe quel endroit au monde jusqu'à ici. Ça, c'est un des plus grands volumes, une des plus grandes injustices à propos desquelles j'espère que nous serons tous témoins contre ces personnes le jour de Qiyam. Pour le mal qu'ils ont fait à l'image de l'islam, pour les actions qu'ils ont attribuées à Allah, et qu'Allah n'a jamais, na'oudhou billah, demandé, et qu'Allah condamne, et qu'Allah les jugera en premier, pour l'image qu'ils véhiculent sur le prophète Al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam, et pour le tort qu'ils ont causé à chaque musulman et à chaque musulmane. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos enfants des fitnas, qu'Allah nous protège de l'ignorance, qu'Allah nous protège également de ces personnes qui déforment la religion et qui, Allah musta'an, sortent complètement du sirat al-mustaqim. Et le prophète alayhi salat wa sallam, pour conclure l'introduction, on va dire, il avait annoncé qu'à la fin des temps viendra des gens dont les actions dépasseront vos actions. Mais la foi, elle n'y est pas. Et le prophète parlait des khawarij. Il dit qu'il dévie de l'islam comme la flèche quitte à la même vitesse que la flèche quitte l'arc. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être envie de faire quelque chose, mais ils sont complètement dans l'ignorance. Et le prophète a mis en garde contre ces personnes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre à notre époque. C'est la concrétisation de ce que le prophète avait dit. Une présence de religion. Une, et pour certains, presque pas non plus, mais une entité religieuse. On parle d'État islamique. Il y a donc une entité religieuse, mais les actions, ça n'a ni queue ni tête, aucun sens, aucune accroche avec la religion. Et c'est l'époque que nous vivons. Et je crains que cette époque donnera suite à d'autres fitnas. Et le seul événement qui mettra fin à tout ça, ce sera la venue de Al-Mahdi. C'est pas pessimiste de le dire, mais au vu des événements, au vu de la tournure et des orientations de certains continents dans certains choix, on a compris. Je crains qu'il n'y a que Al-Mahdi qui pourra venir un jour et rétablir la justice. Qu'Allah nous protège. Inch'Allah, on ne verra même pas cette époque. Parce que ce sont des époques où la foi sera mise à rude épreuve. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos enfants. J'ai oublié de démarrer le chronomètre. Je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps. Hein? On a déjà 30 minutes là? Subhanallah. Bon, on se permet 5 minutes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si je trouve la page. La ilaha illallah. Alors. Mashallah. Bien. Là, il y a deux semaines, on va peut-être faire un rappel sur ce qui avait été dit il y a deux semaines. On avait vu les versets à partir de 34. Wallah Azza wa Jal annonce Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Le paradis qui a été promis pour les croyants. Donc, encouragement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les musulmans qui sont oppressés, qui sont opprimés à l'époque mécoise. Ensuite, Allah Azza wa Jal désapprouve. Allah Rabbul Izza par 5 ou 6 versets montre que le raisonnement de ces personnes qui croient que leur situation dans ce monde sera identique à celle de l'au-delà, que c'est une affirmation complètement fausse et que dans l'au-delà, c'est Allah Rabbul Izza seul qui prend les décisions. Et là, il y a un verset, il me semble que ça, on n'avait pas commenté. Ça on avait dit فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ le 44 سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. C'est-à-dire que Allah Rabbul Izzah à un moment donné dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a même pas à se préoccuper des personnes qui le déclarent la guerre, ces personnes qui demandent, qui n'acceptent pas le Coran, ces personnes qui vont essayer d'atténuer la lumière d'Allah. Les personnes qui déclarent la guerre à Allah et à son messager, Allah Rabbul Izzah du Prophète sallam, sa mission à lui c'est al-balagh, propager. Il est sous la protection d'Allah, il est dans le haq et Allah Rabbul Izzah lui-même s'en charge. Fadharni wa man yukadhibu bihadha al-hadith, laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a commenté ce verset, dit que c'est une mise en garde sévère contre les Quraysh, mais également contre n'importe quelle personne qui déclare mensonger le Coran ou qui déclare la guerre au Coran ou à Allah ou à son prophète, que Allah Rabbul Izzah se charge de. Mais de quelle façon? Quand on dit Fadharni, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a détruit les Quraysh tout de suite après cet événement? Non. Fadharni, Allah Rabbul Izzah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, je répète encore, laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. C'est-à-dire, Allah en fait l'expression une affaire personnelle, entre guillemets. Hein. Allah va gérer ces personnes. Mais la punition d'Allah, le châtiment, la justice n'est pas intervenue tout de suite. Et pour certains, ils ont eu la guidée, comme Abu Sufyan, oui ou non? Et pour d'autres, ben, soit ils ont quitté Makkah lorsqu'il y a eu la conquête, ils ont été pardonnés par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas eu la guidée, ils sont morts dans l'égarement. Et il n'y a pas eu de châtiment. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décide de traiter directement un cas, Allah Rabbul Izzah a sa sagesse, sa clémence, a différentes façons d'agir. Soit il y a une punition immédiate, on a l'histoire de Qarun, on a l'histoire de Pharaon, on a Haman, ou alors Allah Azza wa Jal, on a Abu Jahl également, ou on a d'autres situations, Allah Azza wa Jal laisse ces personnes mourir parfois de l'honneur, aimer des gens, mais après la punition, elle est sévère auprès d'Allah Azza wa Jal. Ibn Kathir, rahimahullah, il cite le verset, un autre verset, يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. Quand il y a des personnes qui sont dans l'égarement, des personnes qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal ou qui déclarent la guerre à Allah Rabbul Izzah, et que malgré ça, ils sont comblés de bienfaits. De le verset, il est cité mal ou abanin. C'était ce qui était le plus important pour les Arabes. Avoir la richesse et avoir une descendance, avoir des enfants. Et Allah leur accorde. Mais que ces personnes ne pensent surtout pas que c'est quelque chose de bien pour eux. Bella yash'urun. En ce sens, ils n'imaginent même pas. Ils ne réalisent même pas qu'Allah est en train de leur donner ce qu'ils veulent dans ce dunya pour mieux les punir et les sévir le jour de Qiyamah. Mais après, il faut avoir yaqin dessus. Il faut avoir conviction et accepter le fait que la justice n'intervient pas forcément de ce monde. Et que les injustes, que les meurtriers ne paient pas forcément de ce monde. Mais si ce n'est pas de ce monde, assurément ce sera dans le delà. Notre verset, c'est Ibn Kathir en commentaire. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Le sens du verset, lorsque ces gens ont oublié, lorsqu'ils ont délaissé tout ce qui pouvait leur rapprocher d'Allah, ils ont délaissé les bonnes actions, c'est-à-dire ils sont restés dans l'égarement de leur passion, de leur péché, ils se plaisaient et ils ont fait leur vie dedans. À un moment donné, Allah Azza wa Jal leur a accordé ce qu'ils voulaient. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Le sens du verset, nous avons ouvert pour eux les portes de toutes choses de bien. C'est-à-dire tout ce qu'ils pouvaient rêver comme bienfait, comme plaisir et jouissance de ce monde, Allah leur a tous accordé. Ça prouve que tout ce qu'Allah leur a donné, pour Allah, ça n'a strictement aucune valeur. Si ça avait une valeur, Allah ne l'aurait pas accordé. Mais comme ça n'a aucune valeur pour Allah, les trésors, les biens de ce monde, ainsi de suite, ce luxe, le confort et l'honneur, la richesse, Allah leur a donné parce qu'ils valent pas plus que ça. Ils ne valent pas plus que le bienfait qu'Allah leur a donné. Mais attention, حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. À un moment donné, ils étaient fiers d'eux. Ils pensaient que si on a tout ça, c'est qu'on est dans le vrai. Et eux, musulmans, croyants, ils ont des difficultés. Nous, on va à l'encontre de leur enseignement, on a tous les biens. Et là, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Et là, la punition d'Allah les a saisis. Le sens du verset. Donc des fois Allah saisit les personnes de ce monde, des fois Allah laisse ces gens pour qu'il y ait le hisab, le compte, le jour du qiyama. Et ça également c'est un enseignement pour ces sahaba Mecca, mais un enseignement pour les musulmans toute époque. Celui qui te fait du mal, celui qui te fait du tort, d'accord, celui qui essaie de t'écraser par rapport à ta religion, même si tu le vois jouir de tous les bienfaits de ce monde, reconnaissance, richesse, l'honneur, ainsi de suite, ne crois surtout pas que c'est quelqu'un de favorisé. C'est en fait qu'Allah l'a abandonné à son sort. Allah l'a abandonné et qu'Allah lui a donné ce qu'il y a autour de lui. Tout ce qu'il y a comme bienfait de ce monde, Allah lui a donné. Parce qu'il ne vaut pas plus que ça, mais le jour des cons, ou soit de ce dunya ou de l'akhira, la punition d'Allah sera sévère parce qu'Allah est juste. De le hadith qu'on dit tout à l'heure, Allah s'est interdit l'injustice sur lui-même. Allah ne fait pas preuve de dhulm, d'injustice sur les gens. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, il y aura la justice, la vraie adl, la vraie justice, et c'est là-haut que ces coupables vont donc en répondre. Dernier hadith qu'on cite par rapport à ce verset, hadith de Bukhari Muslim, Inna Allah la yumli lidhalim hatta idha akhadahu lam yuflithu. Le sens de ce hadith qui rejoint les versets tout à l'heure, qu'Allah laisse l'oppresseur agir comme il a envie de faire. Allah le laisse progresser, avancer, gonfler, on pourrait dire, et réussir ce qu'il est en train de se fixer comme mission jusqu'à ce qu'Allah le prend et le sévit d'une façon terrible. Et ce sera là la justice d'Allah Azza wa Jal. D'autres versets, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Quand Allah reprend ça, le châtiment d'Allah est alim, douloureux et shadid et sévère. Mais il faut être capable de se projeter vers l'au-delà. Ce que nous ressentons, ça ne doit pas nous envahir et ça ne doit pas tromper notre jugement. Ce n'est pas parce que les choses vont mal que nous devons être mal. Les choses vont mal, mais nous devons nous accrocher aux promesses d'Allah de la sourate Al-Qalam et se dire que, de toute façon, il reste combien de temps en vie? Quel âge tu as, Nabil? D'après toi, tu vas vivre jusqu'à quel âge? Allah seul le sait. 70, 80, moi tu veux faire un record, mais je ne te souhaite pas. 110, 120, à l'époque qu'on est, Allah musta'an, ça risque d'être compliqué. Et il nous reste 50 ans en moyenne, ou 40 ans à vivre. Ben, on est sabir, on fait preuve de patience, parce que le plus important, c'est que de retourner correctement vers Allah. Que quand on quitte ce monde, ben, on a quitté ce dunya correctement. Dans nos devoirs envers Allah et dans nos devoirs envers les gens. Qu'on a fait du tort à personne et qu'on a été patient et endurant. Ça, c'est l'enseignement le plus complet que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a délivré. Et ce n'est pas pour rien si jusqu'aux derniers instants des dernières années de sa vie, le prophète avait rendu visite à un enfant de confession juive qui habitait près de sa maison. C'était également un enseignement pour la umma que, subhanallah, ça c'est khalq min khalqillah, créature d'Allah. On n'a pas le droit de mal agir avec quelqu'un parce qu'il ne partage pas nos convictions. Ça c'est l'enseignement prophétique. Ce qui est totalement opposé à tout ce qui est en train de se passer. Si les musulmans, on reprend l'introduction, si on revenait vers l'essence des versets et des hadiths, subhanallah, ces situations-là n'auraient pas eu lieu. On va s'arrêter, inshallah. On est à 40 minutes, je pense. Bon, tout qu'on fait, c'est pas les derniers versets de la sourate Al-Qalam. Je pense qu'on va repousser ça, inshallah, pour la prochaine fois. Il reste le message essentiel. Fasbir li hukmi rabbik. Qu'Allah Azza wa Jalla m'a de faire preuve de patience. Et puis, il y a d'autres versets, 3 ou 4 versets. Inshallah, je pense que la semaine prochaine, on va compléter. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.